Philippe, métaphysique, 25 octobre 1983, Saint-Joseph.
Nous avons essayé de commencer la dernière fois en rappelant que la philosophie première d'Aristote avait pris une terminologie différente et que ça implique sûrement des tournants dans cette philosophie première. Aristote est le premier à avoir dit « il y a une science de l'être en tant qu'être ». Puis après, on l'a dénommé. Puis après, on a essayé de lui donner peut-être, dans une nouvelle perspective, un statut particulier. Alors, le gros problème, c'était de comprendre quel est le point de départ de la philosophie, de façon générale. Puis on essaiera de comprendre quel est le point de départ de la philosophie première ensuite. Quel est le point de départ de la philosophie? Comment la philosophie commence-t-elle? Alors, comme nous sommes dans une philosophie occidentale en premier lieu, si on était dans la philosophie orientale, c'est-à-dire dans l'Inde, le point de départ serait assez différent. On le verra ensuite, un peu rapidement. Mais notre philosophie occidentale, tout le monde reconnaît, le berceau, c'est la philosophie grecque. Et la philosophie grecque elle-même est en dépendance de l'Égypte, comme l'art grec dépend de l'Égypte. Il ne faut pas l'oublier. La philosophie grecque, ne croyons pas du tout qu'au point de départ, la philosophie grecque est uniquement liée à la Grèce, pas du tout. Il y a eu des liens avec l'Occident, avec l'Orient, des liens avec l'Inde, même des liens, on le reconnaît aujourd'hui, avec toute la pensée judaïque, qui s'est fait surtout un peu plus tard. La philosophie grecque, donc, au point de départ, Hésiode, Théogonie et Travaux et jours. Le regard sur les dieux, le regard sur l'homme. Le regard sur les dieux, dans la théogonie, c'est avant tout une espèce de purification des grandes traditions religieuses. La théogonie d'Hésiode est intéressante à ce point de vue-là. C'est le premier moment, on insiste beaucoup là-dessus aujourd'hui, le premier moment du mythe religieux à un certain logos. Hésiode, au point de départ de la théogonie, dit qu'il cherche la vérité. Il prie les murs. La philosophie a commencé par une prière, hein, faut pas l'oublier. Hésiode prie les murs de l'éclairer et de lui conduire vers la vérité. Et donc essayer de comprendre à travers les mythes religieux le logos. Et comment ce logos va-t-il s'introduire? C'est ça qui est intéressant pour comprendre ce que c'est que le logos grec. Hein, il ne parle pas du logos, hein, mais au fond, il essaie d'introduire une intelligibilité. Et cette intelligibilité, c'est l'ordre. C'est essayer de découvrir dans toutes les grandes traditions religieuses un certain ordre. Alors je crois que l'ordre qu'il prend, c'est de saisir les trois points de départ, la trinité d'Hésiode, il ne faut pas l'oublier, l'abîme, la terre, l'amour. Et essayer de comprendre comment, à partir de l'abîme, et à partir de la terre, il y a une certaine généalogie. Tout ça pour aboutir à un Dieu suprême. Donc, il y a cette idée importante à saisir chez Hésiode, l'idée d'introduire un ordre dans l'Olympe des dieux pour découvrir quel est le premier. Vous voyez, au fond, la première orientation vers le monothéisme. Je crois qu'on peut le dire avec Hésiode. Il y a une première orientation vers le monothéisme. Les traditions religieuses, comme tradition religieuse, impliquent une multiplicité des dieux. Tandis que le fait de vouloir découvrir un ordre dans les traditions religieuses implique nécessairement un désir de trouver un premier, un sommet. En réalité, ce n'est pas un premier dans l'ordre génétique, c'est un premier dans l'ordre de perfection. Et parallèlement à ce regard sur les dieux, un regard très particulier sur ce que représente le point de vue de l'homme, les travaux et les jours. Première philosophie de la famille, qu'il ne faut pas trop insister, mais c'est quand même la première philosophie de la famille. Et c'est curieux de voir que le regard sur l'homme va commencer au point de vue philosophique, d'abord et en premier lieu sur la famille. Le travail étant lié à la famille. Toute l'économie primitive est liée à la famille. C'est intéressant de voir ça dès le point de départ. On retrouvera ça chez Aristote, et il faudra comprendre le moment où l'économie s'est séparée de la famille, pour poser des problèmes qui sont des problèmes philosophiques tout autres que les premiers problèmes. Vous voyez, le travail lié à la famille reste lié à une morale familiale. Le point de vue politique est présent, mais on ne peut pas dire qu'Hésiode touche le point de vue politique. Il reste au niveau de la famille. La famille et les dieux. C'est beau comme perspective. La famille et les dieux. On a ensuite deux grands courants philosophiques tout à fait différents, et qui sont très intéressants pour essayer de comprendre quel est le point de départ. Parce qu'on peut dire que le point de départ d'Hésiode, vous voyez, c'est d'une part les traditions religieuses, d'autre part le point de vue de l'expérience du travail. Je crois que c'est les deux choses à retenir. Hein. Nous retenons progressivement de chacun de ces philosophes les points de départ, et puis ensuite nous discuterons quel est le véritable point de départ de la philosophie. Deux grands courants, les pythagoriciens, qui relève alors de plus en plus, on le considère de cette manière-là, qui sont un point de vue religieux. Les pythagoriciens sont des familles religieuses, c'est tout de suite des fraternités. C'est un renouveau religieux de fraternité, et de fraternité intelligente, et c'est pour ça qu'ils essaient de réfléchir sur l'ordre du monde. Ils essaient de réfléchir sur la vie humaine, en voyant comment la vie humaine va impliquer différents aspects. Les pythagoriciens sont les premiers qui ont découvert les trois grands aspects de la vie humaine. La vie politique, la vie contemplative et la vie infra-humaine, par le point de vue du plaisir. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on retrouvera tout le temps et qu'on retrouve jusque maintenant. C'est bien évident de voir que la vie humaine est complexe. Et donc, il n'y a pas qu'un seul regard sur la vie humaine. Et alors, ces fraternités religieuses veulent découvrir l'exigence de la vie contemplative. Les fraternités pythagoriciennes sont en vue de la vie contemplative pour maintenir une vie ascétique contre la vie de plaisir. Alors il y a toute une ascèse surtout au niveau de l'aliment. C'est intéressant de voir que l'ascèse est premièrement au niveau de l'aliment. Il y a des aliments purs et des aliments impurs. C'est vrai, il y a des aliments qui alourdissent la vie, et il y a des aliments qui n'alourdissent pas. Alors si on veut contempler, il faut évidemment autant que possible prendre des aliments qui n'alourdissent pas. C'est très réaliste hein, comme première vision. Mais c'est intéressant. Les pythagoriciens sont intéressants à ce point de vue-là. Pythagore, le fondateur, reste un personnage légendaire. Il a sûrement existé, mais ça reste un personnage très difficile à saisir. Et alors ça s'enracine dans tout un renouveau religieux. Un nouveau religieux qui est très important à saisir. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Dans cette perspective, le point de vue de l'homme est premier. L'univers est vu dans une perspective géométrique. d'ordre. Oui, c'est toujours la question de l'ordre. Alors on pourrait dire que ce sont les premiers qui ont essayé d'organiser l'univers. Hésiode, c'est l'ordre dans l'Olympe, et là, c'est l'ordre dans le point de vue proprement physique, et l'ordre dans le point de vue des petites fraternités. Pour les pythagoriciens, je crois que la notion de l'ordre est tout à fait première. Ce sont des mathématiciens. Et les mathématiciens aiment toujours beaucoup l'ordre. C'est quelque chose de très important pour eux. L'ordre, c'est presque avec un grand O, quelque chose qui est presque l'absolu. L'ordre. À côté des pythagoriciens, vous avez l'école de Milet, qui est diamétralement opposée. Les pythagoriciens, c'est l'Italie, la Sicile, tandis que les Milésiens, c'est l'Asie mineure. Tout ça sous l'influence grecque, hein, c'est bien évident. Mais ce n'est pas encore la Grèce au sens que nous l'appelons aujourd'hui. Ce sont les colonies, ce sont l'extension de la Grèce. Alors vous avez l'école de Milet. Il faut situer Milet. Il faut bien voir où se situe Milet. Il ne reste pas grand-chose de Milet. Mais c'est intéressant d'y passer. C'est tout près d'Éphèse. La première fois que j'ai été à Éphèse, en l'an 50, j'ai vu un écriteau mettant Milet. Et évidemment, on a envie d'y aller. J'ai pu y aller cette année-ci. Alors c'était intéressant d'aller à Milet. J'ai pensé à tous les premiers philosophes de Milet. Il reste des ruines, c'est évident, des ruines importantes, parce que Milet était un centre très important. L'école de Milet, c'est une école de philosophes, Thalès de Milet, Anaximandre, Anaximène. Il regarde le monde physique, mais pas du tout à la manière des pythagoriciens. Les pythagoriciens regardent le monde physique à travers leur géométrie, tandis que les milésiens regardent le monde physique à travers l'expérience du mouvement. On pourrait dire que l'école de Milet correspond pour la Grèce à la grande expérience du mouvement. Et on va essayer de rechercher quel est le fondement de notre cosmos. Quel est le point de départ de notre cosmos? Alors, c'est l'expérience du mouvement qui est première. Puisque peu importe les conclusions différentes de Thalès, d'Anaximandre et d'Anaximène, puisque pour Thalès, c'est l'eau, pour Anaximandre, c'est l'infini, pour l'autre, c'est le souffle. C'est intéressant de voir qu'il y a des tâtonnements par rapport à l'origine de notre univers. Et le mouvement conduit à l'origine, la grande question de l'origine, d'où vient l'univers? Qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans notre univers? Alors l'un dit, c'est l'eau, on comprend très bien l'expérience de l'eau, Thalès. Vous savez, on a des fragments, on a très peu de choses, très très peu de choses. Alors on reconstruit un peu, mais au fond c'est exactement comme quand on va à Milet, on ne voit que des pierres. Alors on reconstruit un peu, les doctes disent qu'il y a là sûrement telle pièce, et on reconstruit. Mais au fond, pour un profane, tas de pierres. Et bien quand vous regardez Thalès pour un premier contact avec lui, vous voyez quelques fragments. Et ces premiers fragments semblent bien indiquer que c'est l'eau qui est le fondement de tout. Je crois que le premier qui a une vision beaucoup plus philosophique, Thalès est un sage. Hein. C'est intéressant de voir ça. C'est un sage. Autrement dit, dans cette perspective-là, la philosophie reste très liée à la politique. Parce que le sage, c'est l'homme politique, c'est le législateur. Thalès donne des lois à Milet. Ce n'est pas du tout un philosophe. C'est là la très grosse différence même avec les pythagoriciens. Les pythagoriciens se séparent de la cité, tandis que les milésiens sont dans la cité. Là, il y a une très grosse différence entre les deux. Et on pourrait dire qu'il y a deux perspectives philosophiques qui se dessinent là tout à fait. La perspective plus personnaliste, c'est les pythagoriciens. Et cette perspective personnaliste est liée à l'attitude religieuse. Elle est liée à la découverte de la finalité contemplative. Tandis qu'au contraire, les Milésiens sont liés au cosmos et sont liés à la cité. Et c'est lié à l'expérience du mouvement. Et là, on tâtonne. C'est les premiers tâtonnements des philosophes. Hésiode, Milet, les pythagoriciens. Voilà le premier triangle de force, si vous voulez. C'est trois aspects. Ensuite, on va découvrir quelque chose alors de beaucoup plus important, Parménide et Héraclite. Alors là encore, je prends, vous voyez, il faut faire ça comme une recherche du point de départ. Parménide, son point de départ, c'est l'inspiration, c'est la révélation. Il faut tous avoir lu le poème de Parménide. Ça fait partie des lectures philosophiques nécessaires. Et avoir lu les fragments d'Héraclite, même si on ne fait pas un cours sur Parménide, c'est un cours qui est magnifique, il faut le faire, si j'avais le temps, je vous ferai un cours sur Parménide. Parce que j'aime beaucoup Parménide et je crois qu'on doit l'aimer beaucoup, Parménide. Je ne vous demande pas d'apprendre par cœur le poème de Parménide en grec, mais je vous demande au moins de le lire en français, parce que c'est important. Ça fait partie, voyez, des connaissances que nous devons avoir, l'enracinement de la philosophie. Alors, Parménide commence sa philosophie par une révélation. Je crois qu'il y a deux choses à retenir de Parménide. C'est que pour recevoir la révélation, il faut une très grande ardeur et de recherche de la vérité. Le thumos de Parménide, c'est à retenir. Et le thumos exprime cette ardeur. S'il n'y a pas d'ardeur dans la recherche de la vérité, ce n'est pas la peine de faire de la philosophie. La vie, n'est-ce pas ? Au novice de la philosophie. Il faut ce désir et cet amour de la vérité. Et ça, Parménide le donne. C'est pour ça que c'est quand même quelque chose de très grand. Et dans cette ardeur de la vérité, exprimée par le char qui est tiré sur lequel se situe Parménide, il y a les hippoïes, il y a les chevaux qui sont là, et puis il y a ce char qui va rapidement, puisqu'il y a les essieux qui grincent. Parménide parvient aux portes de la justice. Et alors c'est intéressant, c'est comme le rappel de la politique, vous voyez. Parce que les portes de la justice, c'est le point de vue politique. Le philosophe dépasse tout le point de vue de la cité pour entrer dans un dialogue avec la déesse. Et c'est la déesse qui lui révèle ce qu'est l'être. Vous comprenez que c'est important pour ceux qui essaient de comprendre une philosophie de l'être, de voir que l'être a été donné par la déesse. C'est impressionnant. La déesse dit « Il est, et il est nécessaire qu'il est. » C'est le « esti » grec. Le « esti » grec, vous voyez, le « to » et « nan », c'est l'infinitif. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la déesse donne d'abord le « esti ». On ne dit pas l'être. L'être, c'est déjà abstrait. L'être, c'est le tout et l'âme. Parménide emploie aussi bien l'un pour l'autre. Ça, je crois qu'on peut le dire. Il emploie les trois, les uns pour les autres. Et le éon, c'est-à-dire l'étang. Parce que ça part d'ici. Alors, il y a les trois. Il emploie d'abord celui-ci, puis celui-là. Le troisième. Et c'est intéressant de voir qu'à l'origine de la révélation de l'être, le esti, le leinain et le eon sont donnés. Le eon, on traduit comme ça. On est le eon d'Aristote. C'est intéressant de voir ça. Donc, et ceci est donné dans une révélation. Et l'être apparaît tout de suite comme l'être nécessaire l'être qui est au-delà de toute Genesis. Donc de toute génération. C'est le premier philosophe, à ce point de vue-là, qui fait cette distinction très nette entre ce qui est, il est, et la génésis, la génération. La génération, elle est donnée par le point de vue, vous comprenez bien, de l'expérience. Nous faisons tous l'expérience de ce qui est eu, la génération. Mais ceci nous conduit uniquement à l'opinion. Tandis qu'au contraire, il est en tant qu'il est nécessaire, nous conduit à la vérité. Mais c'est le premier penseur, mais vous voyez bien que cette philosophie est liée à la théologie. Elle est liée à la révélation. Ceux qui disent « j'ai une intuition nette, si vous n'avez pas, que vous, c'est pas le même. » Alors, vous voyez, il y a une espèce de révélation qui est donnée à Parménide, et tous ceux qui n'ont pas cette révélation, ce sont les hommes à double tête. Ce sont les hommes à double tête, c'est-à-dire des girouettes. Parce qu'ils restent au niveau des opinions. Et ils ne vont pas plus loin. Les opinions, on les met les unes à côté des autres, et ça varie. Quel est l'axe fixe de la pensée? C'est l'être. C'est là où il y a la vérité. Et alors, Parménide ajoute cette chose très importante à retenir, l'être et la pensée sont identiques. C'est une de ces phrases sur lesquelles, de fait, les philosophes reviendront toujours. L'être est identique à la pensée et le legein, le dire, est identique à l'être. Alors, en Dieu, c'est-à-dire en Dieu, disons pas en Dieu, dans celui qui est, ce qu'il ne dit pas, il ne parle pas, il ne dit pas du tout que ce qui est Dieu. Il reste uniquement dans cette vision-là. Mais la déesse lui communique cela. Et la déesse lui communique aussi la voix des mortels, qui est la voix de l'opinion, qui est la voix de la génération. Donc, ce qui est important à retenir, parce que ça, ce sera la grande tradition grecque, d'une certaine manière, c'est cette coupure entre le domaine de l'être et le domaine de ce qui est. Le domaine de la vérité, le domaine de l'opinion. Ici, nous sommes en présence de l'expérience, ici, nous sommes en présence de la révélation. Une révélation qui donne une inspiration. On est inspiré. Comment a-t-il eu cette révélation? Comment a-t-il eu cette inspiration? Il ne nous le dit pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Parménide a eu cela. Alors, Parménide, aujourd'hui, a été mis très en lumière par Heidegger. Il faut le savoir. Et ceux qui s'intéressent à ça, c'est une des manières d'entrer dans Heidegger, de regarder ce que Heidegger dit sur Parménide. C'est intéressant. Tous les philosophes ont parlé de Parménide, c'est bien évident. Aristote a parlé de Parménide. Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est de voir que Heidegger considère que Parménide est quand même le premier à avoir découvert l'être. Et donc, toute la philosophie première de l'être doit s'originer à Parménide. Face à Parménide, je n'insiste pas plus, je ne peux pas dire plus, hein, parce qu'on ne fait pas un cours sur la philosophie grecque, on cherche le premier. Face à Parménide, il y a Héraclite. Héraclite, c'est le philosophe du mouvement. Heidegger s'appuie sur Parménide, Hegel s'appuie sur Héraclite. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, on cherche toujours des grands-pères, vous savez, tout le temps. Alors, on cherche des grands-pères dans la philosophie grecque, on cherche ça s'enracine dans quelqu'un. Alors, Héraclite, lui, met le mouvement dessus de tout. Il y a cette fameuse phrase d'Héraclite qu'il faut retenir, « Le père est la guerre de toutes choses. » Je veux dire, la guerre est le père de toute chose. Donc c'est la guerre qui est l'origine de toute chose. Remarquez que c'est vrai, c'est le père et la guerre de toute chose aussi. Les deux sont vrais, c'est très curieux. Parce qu'on a chez Freud, Le Père est la guerre de toutes choses. Le Père est la source de la guerre de toutes choses. C'est pour ça qu'il faut l'évacuer. Tant qu'on n'a pas évacué le Père, on est sûr d'être en guerre. Alors il faut l'évacuer. Alors c'est intéressant de voir que chez Héraclite, la guerre est considérée comme la source. Parce que pour lui, les contraires sont source de tout renouveau. Et c'est ces contraires qui sont là à la source de toute chose. Cependant, dire ça, c'est simplifier le problème. C'est ce qu'on a donné au point de vue de la tradition. C'est simplifier beaucoup de problèmes. En réalité, Héraclite est un grec. Donc, il considère en effet que la seule chose que nous expérimentons, c'est le mouvement. Mais il est attiré vers l'invisible. Il est attiré vers l'un. Alors, je pourrais aussi bien soutenir que Héraclite, c'est le philosophe du mouvement, et dire Héraclite, c'est le philosophe de l'un. Pas de l'être, mais de l'un. Ça, c'est aussi très intéressant. Ce serait très intéressant de comprendre pourquoi celui qui, par l'expérience, découvre l'importance du mouvement, l'importance des contraires. Tout mouvement implique des contraires. Tout mouvement lit les contraires. Comment ce philosophe, c'est le philosophe de l'un, en passant par le feu. Héraclite, c'est le philosophe du feu. Et c'est le philosophe de l'un. C'est le philosophe de l'harmonie, de l'harmonie invisible. Il y a des harmonies invisibles, comme il y a des harmonies visibles. L'harmonie visible, il est dans le mouvement. Et il y a l'harmonie invisible. Et cette harmonie invisible conduit vers l'un. Héraclite, c'est le philosophe aussi du logos. Alors là, c'est exprimé. Et le logos, c'est justement cette harmonie invisible. Le logos, c'est la loi profonde. L'harmonie invisible, c'est la loi de l'univers. Qui conduit à l'un. Et l'un est au niveau de la sagesse. Il y a beaucoup de choses en Héraclite. Hein. C'est un philosophe d'une richesse extraordinaire. C'est ça qui est intéressant. On oppose souvent Héraclite et Parménide. Tous les deux, du reste, représentent deux pôles au point de vue profond, puisque Héraclite, c'est Éphèse, c'est tandis qu'au contraire, Parménide, c'est Élée. Donc, encore, nous retrouvons les deux pôles, le point de vue de l'Asie mineure et le point de vue de la Sicile, qui sont les deux pôles de la philosophie grecque. Alors, ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'à partir d'Héraclite et de Parménide, on va essayer de faire un éclectisme entre les deux. Alors, ça devient beaucoup moins intéressant. Ça prouve combien Héraclite et Parménide sont vraiment des sources profondes pour la philosophie grecque. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à noter après? Anaxagore. C'est le philosophe du nous. Alors, Anaxagore, c'est le philosophe du nous, c'est-à-dire le philosophe qui découvre l'importance du nous, de l'intelligence de l'esprit. Pour lui, le nous est avant tout. Le nous est premier. C'est lui qui commande tout. Le nous séparé. Ça, il faut le comprendre. Anaxagore. Anaxagore, donc, c'est le philosophe du nous et c'est le philosophe aussi de l'expérience. Mais alors, nous retrouvons un peu dans Anaxagore les deux extrêmes. Exactement comme dans Héraclite, mais pas du tout de la même façon, puisque ce n'est plus l'un, c'est le nous. Mais il est séparé comme l'un. Et il y a aussi l'expérience. Qu'est-ce qu'il y a ensuite comme grande position des points de départ, hein, c'est ça qui m'intéresse. Les points de départ. Pas les termes. On pourrait faire une analyse des termes des philosophes, mais où est-ce qu'ils aboutissent? Ce qui m'intéresse ici, c'est le point de départ. Sur quoi sont-ils fondés? Vous voyez que très vite, les traditions religieuses n'ont plus été le fondement de la philosophie. C'est l'expérience à laquelle on se donne. L'expérience qui nous conduit au logos, qui nous conduit à l'un, à l'expérience qui nous conduit au feu, aux harmonies invisibles, l'expérience qui nous conduit au Logos. Il y a eu toute une période d'éclectisme. Et face à l'éclectisme est né les sophistes. Les sophistes représentent pour la philosophie grecque un nouveau point de départ. Et ce nouveau point de départ, les sophistes, c'est quelque chose de très particulier. Les sophistes ne cherchent plus la vérité. C'est le premier moment où on voit que les philosophes ne cherchent plus la vérité. Jusque-là, il y a unanimité. Ils cherchent tous la vérité. C'est pour ça que ce sont des amis. Puisque pour saint Thomas, quelqu'un qui cherche la vérité est un ami de celui qui cherche la vérité. Si vous cherchez la vérité, vous êtes ami de tous ceux qui cherchent la vérité. C'est très important. Tandis qu'au contraire, les sophistes ne cherchent plus la vérité. Ils cherchent à dominer. Et donc, ils vont employer une méthode avant tout rhétorique. Leur point de départ, c'est l'opinion. C'est l'opinion des hommes. Puisqu'on cherche non pas la vérité, mais on cherche à persuader. Et donc, il faut connaître l'opinion des hommes. Si je veux persuader, je cherche l'opinion des hommes. Je ne cherche plus la vérité. La vérité, c'est impossible. Il y en a-t-il, du reste. Les sophistes sont sceptiques quant à la recherche de la vérité. Ils considèrent que les philosophes se perdent dans les nuages. Et les philosophes, c'est quelque chose. Alors, eux sont des philosophes, mais des éducateurs. C'est le premier moment où la philosophie est tombée dans l'éducation. Il y a un primat d'éducation. Et ce point de vue de l'éducation se fait par la rhétorique. Ils se font payer. Parce que c'est plus sérieux. Une école où on ne se fait pas payer, ce n'est pas sérieux. Ça prouve que vous ne valez rien du tout. C'est comme les psychiatres, les psychanalystes. Hein. Ils se font payer pour que ça fasse comprendre que ça vaut. C'est une manière très habile d'attacher les gens. Vous voyez, tandis qu'on ne se fait pas payer, vous ne valez rien du tout. Alors, ils ne se font pas payer, mais ils sont des éducateurs. Et ce qui les intéresse, c'est les gens qui ont de l'argent. Donc, c'est l'aristocratie grecque. C'est ça qu'ils cherchent. Face aux sophistes, vous avez Socrate. Socrate, vous avez bien, il n'a rien écrit. Il y a sans doute trois Socrates. C'est-à-dire qu'il y a sans doute trois moments dans la vie de Socrate. Je crois que c'est encore ça qu'on doit dire pour essayer de mieux comprendre Socrate d'après les différents miroirs de Socrate. Premier miroir de Socrate, le Socrate sophiste. Socrate a été lui aussi un rhéteur. C'est pour ça qu'il écrit si bien, il n'a pas écrit. Il a été un rhéteur. Puis vous avez Socrate qui se convertit, il devient capitaine. C'est la grande manière de se convertir des sophistes, c'est devenir militaire. C'est la grande manière de se convertir des sophistes, c'est devenir militaire. Il devient, avec Xénophon, un militaire courageux, très courageux. Et puis le troisième Socrate, converti par l'oracle de Delphes. Il n'y a que les dieux qui convertissent les militaires, vous voyez ? C'est très joli ça. Et alors on voit très bien, il faut que Socrate soit converti dans une troisième vie, qui est une vie alors beaucoup plus spirituelle, il ne cherche plus la gloire humaine, il ne cherche plus le succès, mais il se convertit par l'oracle de Delphes. Et c'est l'oracle de Delphes qui lui donne un mot d'ordre merveilleux, « Connais-toi toi-même ». C'est très émouvant quand on va à Delphes de penser à Socrate, qu'il a reçu là de la pitié de Delphes. Quelque chose de merveilleux qui a été si grand, vous voyez, mettez en parallèle Parménide et Socrate. On ne l'a pas fait et ce serait intéressant de le faire parce que ça nous montrerait l'origine de la métaphysique, l'origine de l'éthique, et que tous les deux proviennent des dieux. Tous les deux ont donc une origine qu'est la révélation. Une révélation plus personnelle chez Parménide, une révélation aussi très personnelle, très intime chez Socrate. Connais-toi toi-même. Qui a transformé la vie de Socrate. Socrate est devenu, comme les sophistes, un éducateur. Mais pas du tout dans le même but. Socrate est devenu un éducateur dans le sens qu'il a voulu corriger les jeunes avides de gloire. Face aux sophistes qui se font payer, Socrate ne se fait pas payer. Pour lui, la grande manière de se faire payer, c'est d'acquérir l'amitié de ces jeunes étudiants qu'il a autour de lui. Et cette amitié vaut plus que tout. Et alors, c'est un homme amicabilis, Socrate. Et il suscite des amitiés. C'est un homme prodigieux, comme séducteur. Il a été condamné comme séducteur de la jeunesse. Et il attire les jeunes autour de lui. Il les éduque. Il les éduque non pas du tout en vue du pouvoir, mais il l'éduque en vue d'une recherche de la vérité. Et parmi ses disciples, il a eu le disciple Platon, qu'il a eu pendant 9 ans, et qu'il a retiré de ses ambitions politiques pour la donner à la philosophie. Et nous avons ensuite alors Platon. Platon, l'origine de sa philosophie, on peut dire que c'est Socrate. Alors à ce point de vue-là, c'est une origine d'un éducateur, d'un éveilleur d'âme, parce que Socrate est un éveilleur d'âme merveilleux. Et c'est l'origine, c'est le grand-père de l'éthique. Comme Parménide est le grand-père de la philosophie première, c'est pour ça que je l'ai mis en parallèle, on peut dire que Socrate est le grand-père de l'éthique. Et cet éveilleur au niveau d'éthique a mis au monde quelqu'un comme Platon. C'est extraordinaire de voir ça. De voir quelqu'un qui n'est plus resté au niveau proprement éthique, qui est revenu à la politique, parce que le démon de la politique est beaucoup plus fort qu'on ne pense. Et Platon est l'exemple merveilleux de celui qui à la fois est converti une première fois par Socrate et qui, de fait, il avait 2 oncles dans la politique. C'est terrible d'avoir 2 oncles dans la politique. C'est terrible d'avoir 2 tantes contemplatives. Vous voyez, ça fait partie de ces appels plus impératifs que tout. Alors avoir 2 oncles dans la politique, vous savez, c'est impératif, ça. Parce que les oncles veillent toujours sur leurs neveux. Ils n'ont pas de vraie progéniture, alors ils veulent en avoir une spirituelle ou une politique. Alors les oncles ont une influence énorme, comme les tantes. Une influence énorme. Alors on voit très bien cette influence de ces 2 oncles sur Platon qui fait qu'après avoir suivi Socrate pendant 9 ans, à la mort de Socrate, il a été blessé à vif. Platon est un homme blessé, il ne faut pas l'oublier. Il a été blessé à vif de voir la manière dont on condamnait Socrate. Et ça, je crois qu'on ne tient pas assez compte, quand on regarde le platonisme et quand on lit Platon, on ne tient pas assez compte de cette blessure si forte que Platon a reçue à la mort de Socrate. Et c'est parce qu'il a été blessé à mort qu'il veut à tout prix transformer le gouvernement d'Athènes. Il a vu la bêtise du gouvernement d'Athènes, condamner à la ciguë Socrate. Alors, il veut à ce moment-là transformer son peuple pour le rendre intelligent. C'est un homme politique en vue de rendre intelligents les autres. Hein. C'est un peu utopique, je sais bien, mais ça ne fait pas partie des programmes politiques, ça. Vous voyez, dans les programmes politiques, on verrait ça, on dirait, mais c'est complètement utopique. Rendre intelligents, les faire sortir de la caverne pour les faire contempler, pour ensuite permettre qu'il y ait la justice qui puisse s'établir. C'est vrai que la République est la grandeur de Platon. Je crois que c'est l'œuvre par excellence de Platon. Ce n'est pas l'œuvre la plus philosophique, mais c'est l'œuvre qui exprime les désirs les plus fonciers de Platon. Alors, comprenons bien que dans la République, il y a la caverne. Et la caverne nous fait comprendre comment il faut sortir de la caverne pour entrer dans la lumière. Entrer dans la lumière, c'est-à-dire recevoir une espèce d'illumination intérieure. Et cette illumination intérieure s'accompagne de la réminiscence. Nous avons vécu une vie antérieure contemplative. Et cette vie antérieure contemplative, avant d'être unie au corps, nous devons la revivre. Et nous la revivons grâce à ce choc profond, nécessaire, qui implique une certaine illumination, une certaine inspiration. Je crois qu'on peut dire que toute la philosophie platonicienne, quand même, repose sur l'inspiration. Au moins le premier Platon. Peut-être que Platon, qui a eu des échecs successifs, va retomber sur ses pieds ou sur ses mains et va faire plus d'attention à l'expérience. C'est possible. C'est très possible qu'il y ait ça. Mais ça, c'est pas très très net. Ce qui est net dans Platon, c'est de considérer que le point de départ de sa philosophie relève d'une illumination intérieure. Et cette illumination intérieure qui est une espèce d'inspiration par laquelle il va retrouver, grâce à la réminiscence, ce qu'il a vécu antérieurement. Donc le point de départ de la philosophie n'est pas du tout le même, voyez, que celui de Socrate. Le point de départ de la philosophie de Socrate, c'est une attitude religieuse. C'est une inspiration religieuse. Le point de départ de la philosophie de Platon, c'est une illumination de sa vie antérieure. Une illumination qui implique, c'est vrai, quelque chose de religieux, je suis tout à fait d'accord. Platon est un homme religieux. Puis vous avez Aristote, 20 ans à l'école de Platon. Alors on peut comprendre qu'à la mort de Platon, Aristote a une soif d'autonomie. Je crois que c'est venu très vite, cela. Aristote était considéré comme le liseur. Celui qui lisait, qui avait toujours le nez dans ses bouquins, dans les papyrus, et qui lisait. C'est très vite, je crois, qu'Aristote a réagi contre Platon. Il n'a jamais accepté les idées, les formes idéales de Platon. Ça, on en est à peu près sûr. Aristote, c'est l'homme de l'expérience. C'est le philosophe qui base toute sa philosophie sur l'expérience. Et c'est le philosophe qui essaie de comprendre le passage du visible à l'invisible. Ce n'est plus un saut, il veut comprendre le passage. Et je crois que ça, c'est le grand, grand effort d'Aristote. Ce qu'on appelle l'induction. Vous verrez. Les pagobés, l'induction, le passage du visible à l'invisible. Je crois que face à Platon, qui met un hiatus complet ou un abîme entre l'invisible des formes en soi et l'expérience sensible, il y a deux mondes, un peu comme pour Parménide. Le désir d'Aristote, c'est jeter un pont sur l'expérience sensible et la connaissance de la réalité invisible. Aristote est aussi bien le philosophe de l'invisible que du visible. Mais il est beaucoup plus le philosophe qui montre le passage des deux. Et c'est la grandeur d'Aristote. De ne pas être resté uniquement au niveau de l'expérience, mais d'avoir assumé tout ce qu'il y avait de noble, de grand, dans la philosophie de Parménide, dans la philosophie de Platon. Dans la philosophie d'Héraclite aussi. Sur ce point de vue-là, il est beaucoup plus proche d'Héraclite que de Parménide. Parce qu'au fond, je crois que Parménide a eu déjà ce désir de passer du visible à l'invisible. Là, il y a un parallélisme entre les deux. Oui, si on peut faire un parallélisme entre Parménide et Socrate, on pourrait faire un parallélisme entre Aristote et Héraclite. Après Aristote, il y a une chute. La philosophie première découverte par Aristote n'est plus maintenue, sauf dans l'école. Mais dans l'école, il n'y a pas des gens très, très, très remarquables. Théophraste, successeur, n'est pas un homme très, très remarquable. Immédiatement après Aristote, on retombe dans des perspectives de philosophie humaine, éthique. Ce sont des écoles morales. Alors, dans ces écoles morales, on peut dire que l'expérience, c'est le plaisir. Je crois que pour Épicure, le point de départ de sa philosophie, c'est le plaisir. Je crois que pour les stoïciens, le point de départ de leur philosophie, c'est l'expérience immanente de la volonté, du volontaire. C'est les deux grandes écoles rivales. Et c'est une expérience interne. Et puis ensuite, Plotin. Plotin, c'est à la fois l'inspiration et l'expérience externe. Voilà pour la philosophie grecque. Je réfléchirai la fois prochaine, vous voyez, j'ai voulu simplement vous rappeler ça, parce que c'est important. Je réfléchirai l'année prochaine, la fois prochaine, sur les points de départ. Une fois que j'ai ça, je crois que je saisis tous les points de départ de la philosophie. Et nous ferons notre choix critique. Nous ferons notre choix critique et nous essayons de comprendre pourquoi nous commençons par l'expérience et non pas par l'inspiration et non pas par la révélation et non pas par l'opinion et non pas par l'expérience interne. Ça, il faut le comprendre. C'est ce que nous essayerons de voir la fois prochaine.